Bienvenue pour cette nouvelle émission. Ravi de vous retrouver cette semaine encore sur l'âge de l'histoire où nous allons poursuivre nos réflexions de la semaine dernière où nous évoquions la figure ô combien importante d'Alcibiade. Alors je remets un petit peu dans le contexte. Alcibiade a vécu au 5e siècle dans cette Athènes du 5e siècle qui est aujourd'hui un petit peu fantasmée. Il est issu de l'aristocratie, c'est un stratège, un militaire, un homme politique. Il fréquente les milieux politiques et intellectuels, il est le neveu de Périclès. Il rencontre Thucydide, Xénophon, Platon, Socrate. Il est mentionné d'ailleurs dans le banquet de Platon, puisque c'est lui qui fait l'hommage de Socrate, et puis il fréquente tous les hommes de son temps, mais comme souvent à Athènes, il y a des rivalités de clans, il y a des rivalités de familles, et ces rivalités notamment l'opposent à Nicias, celui qui a fait ratifier la paix dite de Nicias en 421. Et par conséquent, il trempe dans des affaires très bizarres, il y a cette mutilation des Hermès qui lui est attribué alors qu'il n'y est pour rien. Et puis, il y a cette parodie des mystères de l'Eleusis qu'il a effectivement organisée, si bien qu'au moment où il part en Sicile pour conquérir l'île et ainsi assurer à Athènes le contrôle de l'approvisionnement en blé, eh bien, il est ostracisé et il est condamné à mort. Donc, il s'en va. L'expédition de Sicile se révèle être un désastre. Athènes perd une partie de son armée terrestre. Elle perd surtout une partie de sa flotte. Et donc, pour la puissance thalassocratique qu'est Athènes, perdre sa flotte est évidemment quelque chose d'extrêmement dommageable. Et cela a largement contribué à affaiblir Athènes. Mais Alcibiade n'en a pas terminé pour autant avec son destin, avec sa carrière. Il poursuit sa vie, mais il le fait cette fois-ci avec Sparte. C'est ainsi une activité un petit peu originale qui est qu'il passe dans le camp spartiate. Nous sommes là en 415, durant l'hiver 415-414. Il avait au début songé à se rendre à Argos, qui est l'une des grandes cités du Péloponnèse. Argos est située à proximité de Nauplie. Mais finalement, il se rend à Sparte. À Sparte, qui est l'adversaire d'Athènes. Cela fait maintenant une quinzaine d'années qu'il y a cette guerre entre Athènes et Sparte, la guerre dite du Péloponnèse, que Thucydide nous a racontée et analysée. Et il se rend à Sparte d'abord pour trouver une terre de refuge, et puis, comme il a été exilé de sa patrie, il estime qu'il n'a plus rien à devoir à Athènes. Il n'est plus tenu par un quelconque serment politique. Son oncle, Périclès, est mort. Périclès est mort lors de la première année de la guerre, dans la peste qui a emporté une partie de la ville. D'autres grands stratèges ont été ostracisés, notamment Thucydide. Et il se trouve qu'à Athènes, il y a un clan qui a pris le pouvoir, qui n'est pas un clan ami, mais qui est au contraire un clan opposé à sa famille. Il rejoint donc Sparte et il apporte avec lui son savoir-faire, son énergie, ses capacités et évidemment sa grande connaissance d'Athènes. Le passage d'Alcibiade d'Athènes vers Sparte est un moment dramatique et intense de cette guerre du Péloponnèse qui contribue à changer une partie de celle-ci. Alors, vous me direz, on pourra toujours rétorquer à Athènes qu'il fallait garder Alcibiade, et qu'avoir condamné à mort un aussi grand stratège et un aussi grand génie militaire n'était pas une bonne idée. Effectivement, et en tout cas, lui a d'abord cherché à sauver sa vie. Il va donc conseiller aux Spartiates, qu'on appelle aussi les Lacédémoniens, d'envoyer une armée en Sicile, afin de pouvoir finir, anéantir les troupes athéniennes qui s'y trouvent toujours. Et c'est ce qui fait, en effet, les Spartiates envoient un homme qui s'appelle Gylippe, Gylippe qui est un général spartiate, et il est envoyé en renfort à Syracuse, vous rappelez, si vous rappelez l'émission de la semaine dernière, on avait vu que les Athéniens ont atterri à Catane. Ils sont arrivés à Catane. Ils ont pris Catane. Là, ils ont installé leur base, mais ils n'arrivent pas à prendre Syracuse. Alors, la Sicile n'est pas unie à l'époque. Il y a différents royaumes, gouvernements en fonction des villes. Et donc, ils n'arrivent pas à prendre Syracuse. Et Gilippe est envoyé en renfort à Syracuse. Là, il rassemble une armée et il vient apporter une aide aux gens de Syracuse et il peut ainsi combattre les Athéniens et obliger les Athéniens à lever le siège de Syracuse. Ce qui est évidemment une défaite importante pour Syracuse qui probablement n'avait pas les moyens de résister seul contre Athènes. On voit par ailleurs l'expansion de la guerre du Péloponnèse. C'est-à-dire que la Sicile, qui était complètement à l'écart de la guerre et qui n'a rien à voir ni avec la Ligue de Délos, ni avec la Ligue du Péloponnèse, est incluse, malgré elle, dans cette guerre. Une fois que le siège a été levé, Gilippe poursuit ses combats. Il se fait apporter des renforts et à partir de là, il mène une expédition contre la flotte athénienne afin de la détruire. Et non seulement il détruit la flotte athénienne, mais en plus il vainc les deux généraux athéniens que sont Nicias et Démosthène. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est important parce que ces deux généraux sont battus, et non seulement ils sont battus, mais en plus ils sont tués. Donc celui qui a participé à la paix de 421, est abattu. On est en 413, il meurt devant Syracuse. C'est évidemment une très grande défaite pour les Athéniens. C'est aussi une victoire personnelle pour Alcibiade, puisque Nicias s'était toujours opposé à Alcibiade et c'est lui qui avait contribué à son ostracisation. Donc évidemment, Alcibiade est ravi de voir que son rival a été tué dans cette guerre du Péloponnèse. Et puis le deuxième grand général qui décède, c'est Démosthène, lui aussi était un adversaire de Syracuse et étant vaincu, évidemment, ça affaiblit considérablement les Athéniens. Donc vous voyez qu'Athènes non seulement a perdu une partie de son armée terrestre et une grande partie de sa flotte, mais en plus elle a perdu de ses généraux extrêmement importants et pour Sparte, c'est une grande victoire. Une grande victoire qu'ils doivent à leur stratège Gilippe. Vous voyez que Alcibiade a poursuivi cette guerre, il l'a poursuivi à distance et il a manœuvré à distance afin d'affaiblir Athènes. Alors ensuite, il prend en quelque sorte le contrôle officieux de l'armée spartiate, il ne dirige pas officiellement l'armée spartiate, mais enfin il conseille, il indique un petit peu ce qu'il faut faire, et notamment il suggère de fortifier la région de l'Attique. L'Attique qui est donc la région où il y a Athènes. Et ainsi, une fois que les Spartiates ont détruit l'armée athénienne en Sicile, ils reportent leur combat vers l'Attique. Ils s'installent dans l'Attique au printemps 413 et, contrôlant l'Attique, ils peuvent affaiblir considérablement Athènes, non pas en attaquant de façon directe, mais en menant des raids répétés. Et les Spartiates contrôlent l'Attique jusqu'à la fin de la guerre. Jusqu'en 413, les Spartiates assureront le contrôle de l'Attique, ce qui leur donne un avantage considérable contre les Athéniens, et ce qui est d'ailleurs un des facteurs du succès des Spartiates contre les Athéniens. Donc cette idée d'Alcibiade de prendre le contrôle de l'Attique et de tenir l'Attique a été quelque chose d'extrêmement utile et d'extrêmement positif pour les Spartiates, qui ont pu ainsi contrôler cette région et s'en assurer la maîtrise. Donc ça a été là aussi un grand succès et une grande réussite que l'on doit à Alcibiade. Et les Spartiates, évidemment, ne peuvent que l'en remercier. Donc Athènes est très fortement fragilisée, son économie est fragilisée puisqu'elle tire une partie de ses richesses de l'Attique, et comme l'Attique est occupée par les gens du Péloponnèse, Évidemment, Athènes est fragilisée. Et l'économie athénienne étant fragilisée, eh bien, Athènes aura beaucoup plus de mal à pouvoir financer la guerre. Et notamment, Athènes perd les revenus des mines du Laurion. Les mines du Laurion, qui sont des mines situées au sud de l'Attique, près du Cap Sounion, et qui fournissent une partie des minéraux, des minerais, dont la Grèce a besoin, dont Athènes a besoin, notamment de l'argent. Et en perdant ces mines du Laurion, Athènes n'a plus accès à l'argent, et donc ça veut dire que Athènes ne peut plus battre monnaie, puisque la drachme est une monnaie d'argent. Et donc vous voyez que en prenant la main sur les mines du Laurion, eh bien les Spartiates contrôlent ou empêchent les Athéniens d'accéder aux flux financiers. Si je reprends l'analogie avec la guerre en Ukraine, c'est la façon dont les Américains, par exemple, ont privé certaines banques russes d'accès à SWIFT ou bien d'accès au dollar. Les Spartiates et Alcibiade avec eux, enfin Alcibiade surtout, a compris qu'en empêchant les Athéniens d'accéder à la monnaie, donc en les coupant des mines du Laurion qui sont des mines d'argent, eh bien les Athéniens ne pourraient plus financer la guerre, les Athéniens ne pourraient plus acheter des armes et que par conséquent ils seraient très fortement pénalisés. Vous voyez que ce positionnement stratégique dans l'Attique est extrêmement habile parce qu'il coupe Athènes d'une partie de ses ressources essentielles. Ça a été évidemment un très grand coup COUP, et ça fait que les Athéniens reçoivent en plus moins d'argent de la part de leurs alliés et que le ravitaillement est beaucoup plus difficile. Autrement dit, les Athéniens sont désormais dans une situation très compliquée. Et puis, troisième conseil que donne Alcibiade ou Spartiate, c'est d'attaquer Athènes dans le cœur de l'Empire. Donc, vous voyez, il est très habile. Il leur dit d'abord, il faut profiter de la faiblesse d'Athènes en Sicile pour porter le fer en Sicile, ce que les Spartiates font. Ensuite, on porte le fer en Attique pour couper Athènes de sa base de l'Attique et de ses ressources en minerais. Donc on l'a privé de son armée et de ses généraux, on la prive de la monnaie, et maintenant on porte le combat en Asie mineure où il y a là aussi une grande richesse pour Athènes, et en plus, les îles et les villes de l'Asie mineure font partie de la Ligue de Délos, et en portant le combat en Asie mineure, on incite ces cités à faire sécession et à prendre leur indépendance. Autrement dit, porter le combat en Asie mineure est une façon de provoquer le délitement de la Ligue de Délos. Or, sans la Ligue de Délos, il n'y a pas de puissance athénienne. C'est donc, de la part d'Alcibiade, un très grand coup stratégique qui, évidemment, va porter un coup fatal à la puissance d'Athènes. Et pour Athènes, c'est un petit peu le début de la fin, même si on ne le sait pas encore. Nous sommes là durant l'année 413-412. La guerre se termine en 404 avec la défaite d'Athènes. Donc il reste encore 6 ans de guerre, mais évidemment, à cette époque-là, personne ne le sait. Et Alcibiade propose aux Spartiates de commander l'ambassade qui va se rendre en Asie mineure, qu'on appelle également l'Ionie. Il part donc en Ionie et là il convainc plusieurs grandes cités de faire défection. Parmi elles, on a Chios, on a Milet, on a Éphèse. Et il y a donc une défection, un délitement de l'Empire athénien et aussi un contrat, un traité qui est conclu entre Sparte et le satrape de Sardes et de Ionie qui est Tissapherne. Donc un traité entre les Spartiates et les Perses. C'est là aussi très habile, parce que les Spartiates comprennent qu'ils ne peuvent pas gagner seuls, et donc en s'alliant avec les Perses, ils vont pouvoir faire une alliance de revers, augmenter leur force, augmenter leur puissance, et ainsi porter un coup qu'ils espèrent fatal à la puissance athénienne. Donc, stratégie extrêmement habile et malines de leur part, mais qui évidemment heurtent certains Grecs en voyant que les Grecs s'allient avec les Perses, alors même que Sparte a combattu les Perses durant les guerres médiques. Donc, vous voyez, une situation qui est très négative pour Athènes, mais malgré tout, Athènes parvient à reprendre un petit peu la main en Asie mineure. En fait, les Spartiates ne contrôlent pas aussi bien l'Asie mineure qu'ils pensaient le faire. Et du coup, les Spartiates commencent à douter de la loyauté d'Alcibiade. Ils se disent, mais finalement, cet homme qui a trahi Athènes, pourquoi est-ce qu'il ne nous trahirait pas nous ? Et donc, il y a un complot qui est organisé contre Alcibiade avec le projet de l'assassiner. Un complot qui est, par ailleurs, organisé par le roi de Sparte, Agis II. Bon, il faut dire aussi qu'il y a une question de jalousie, puisque Alcibiade a eu la mauvaise idée d'avoir une liaison avec la femme du roi. Et donc, à des considérations politiques, s'ajoutent des considérations personnelles, qui fait que Agis II, le roi Agis II, a doublement raison, enfin double intérêt à se débarrasser d'Alcibiade. Et finalement, Alcibiade, apprenant que les Spartiates cherchent à l'assassiner, quitte Sparte et passe ensuite dans le camp des Perses en se mettant au service de Tissaferne, le satrape de Sardes. Donc Alcibiade trouve là une troisième patrie, après Athènes, après Sparte. Il se met cette fois-ci au service des Perses. Il se met au service des Perses. Il espère pouvoir contrôler en réalité Tissaferne, pouvoir contrôler la Sarde et l'Ionie, mais il n'y parvient pas vraiment. Et donc, la situation politique ayant changé à Athènes, Alcibiade essaye de préparer son retour à Athènes. Et finalement, il convainc Tissaferne de ne favoriser ni Sparte ni Athènes, mais de favoriser uniquement ses intégrés. Voilà ce que nous dit Thucydide à ce sujet. Il s'agit d'user les Grecs contre eux-mêmes, avec des frais limités, et sans mettre en jeu sa sécurité propre. Ça fait un petit peu penser à la Chine et à la Russie et les États-Unis aujourd'hui. Affaiblir Athènes et Sparte sans entrer directement dans le jeu et récupérer ensuite la mise lorsque les deux adversaires auront été très fortement affaiblis. Et donc finalement, Tissaferne réduit les sommes d'argent qu'il donne aux Péloponnésiens. Il cesse de leur livrer des bateaux, comme il avait promis, et il se fâche même avec les Spartiates, et donc l'alliance entre Sparte et Perse est rompue. Là aussi, bien mauvaise affaire de la part des Spartiates que d'avoir laissé partir Alcibiade. Alcibiade rentre à Athènes. En 411, il établit des contacts avec les Athéniens et il leur annonce que Tissaferne est prêt à s'allier avec eux. Et donc finalement, il essaye de mettre en place un retournement d'alliance. Non pas l'alliance entre Sparte et Tissaferne, mais entre Tissaferne et Athènes. Là aussi, c'est très classique en géopolitique que d'avoir ce retournement d'alliance. Mais il dit qu'il ne pourrait y avoir de retournement d'alliance que si les Athéniens mettent un terme au régime démocratique et qu'à la place, ils mettent en place un autre régime. Un régime politique plus sage, selon la formule d'Alcibiade, qui est ce qu'on appelle l'oligarchie. Et finalement, il se trouve que les Athéniens qui dirigent la ville ne veulent pas mettre un terme à leur gouvernement. Ils ne veulent pas non plus rappeler Alcibiade. Mais malgré tout, il y a des négociations qui sont mises en place. Et finalement, la démocratie est renversée malgré tout. Alors la démocratie athénienne n'a pas grand-chose à voir avec ce que l'on appelle, nous, la démocratie. Donc il ne faut pas non plus idéaliser la démocratie athénienne. Mais elle est renversée et on a le système de l'oligarchie qui se met en place. L'oligarchie se mettant en place, Alcibiade se dit qu'il pourra enfin rentrer dans sa patrie. Il s'assure d'abord que Tissaferne n'aidera pas Sparte, ce qui est vrai, et ce gouvernement oligarchique s'appelle le gouvernement des 400. Le 400 est un gouvernement qui est mis en place en 411, puisqu'il y a eu un coup d'État qui est opéré en 411, qui a renversé le gouvernement athénien et qui a mis en place donc un nouveau gouvernement. Et cette délégation des 400 est reçue par Tissaferne, et finalement, la situation se passe assez mal, et le gouvernement des 400 est renversé à son tour. Donc on voit qu'on a une très grande instabilité politique à Athènes. Donc les 400, c'est ceux qui dirigeaient la ville, et les 400 personnes qui dirigeaient la cité, ils sont renversés, ils sont remplacés par l'action des 5000. Bon, tout cela est très compliqué, et finalement, les 5000 sont eux-mêmes renversés par un autre gouvernement qu'on appelle les 500. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a en fait une très grande instabilité politique à Athènes, que la vie politique athénienne ne tient plus, et que le gouvernement athénien est de plus en plus instable. Du coup, la guerre se déplace vers l'Hellespont. Alcibiade joue un rôle décisif, notamment dans les victoires navales d'Abydos et de Cyzique. Lui, il travaille toujours pour les Perses, hein, malgré tout, mais enfin, cette fois-ci, il s'est un petit peu rangé du côté des Athéniens. C'est son deux victoires navales contre contre les Spartiates. Donc, on peut penser qu'Athènes va finir par gagner. Et finalement, il contribue à soumettre des villes qui étaient récalcitrantes, notamment Chalcédoine et Cyzique. Et finalement, un accord est conclu entre Athènes et Tissapherne. Alcibiade prend la possession de Byzance en 409 et il peut de nouveau rentrer à Athènes. Donc vous voyez un ultime retournement d'alliance avec la prise de Byzance qui est une colonie athénienne et Alcibiade rentre à Athènes. Il rentre à Athènes en 407, il est de nouveau élu stratège. Donc son long exil qui avait commencé en 415 s'arrête. L'accueil est triomphal, les biens lui sont rendus. On rétracte les malédictions qui ont été prononcées contre lui, et Alcibiade est rétabli dans toute son intégrité. Il rétablit également la procession vers Eleusis et les mystères, qui est donc une manière comme ça de réconcilier avec ce qui s'était passé au moment de son départ. Et puis Alcibiade poursuit la guerre, parce que celle-ci n'est pas terminée, et il mène notamment la bataille de Aegos Potamos, qui est une des grandes batailles navales, qui est extrêmement importante. Et Alcibiade n'est pas du tout d'accord avec le plan stratégique qui a été mis en place, il estime que c'est un mauvais plan, il préconise un autre plan pour la bataille d'Aegos Potamos, les Athéniens ne l'écoutent pas, et ils sont battus. C'est une très grosse défaite, cette bataille d'Aegos Potamos, nous sommes en 405, c'est la dernière grande bataille de la guerre du Péloponnèse, et cela signe la défaite finale d'Athènes. Et Alcibiade peut dire que cette défaite, ils la doivent au fait qu'il n'a pas été écouté. Or, il est là de nouveau en danger parce que certains Athéniens veulent l'assassiner, il se retire en Thrace. Un gouvernement athénien prend le pas qu'on appelle le gouvernement des 30, il est frappé d'exil. Il ne peut pas se réfugier à Sparte parce que les Spartiates l'ont toujours exilé. Donc Alcibiade se retrouve sans cité, il ne peut aller ni à Athènes ni à Sparte. Il trouve refuge chez le satrape perse de Bithynie. Un satrape, c'est quelqu'un qui dirige une région, on dirait en quelque sorte une préfecture aujourd'hui. Et une fois qu'il arrive, il reste peu de temps et il s'en va. Et finalement, il meurt dans un village de Phrygie. Alors il meurt, on ne sait pas vraiment comment il trouve la mort. Certains disent qu'il aurait été assassiné, qu'il aurait été attaqué. D'autres disent qu'il serait mort d'accident. Enfin, il paraît quand même de plus en plus probable au regard des sources qu'il a été attaqué par des hommes, qu'il était dans une maison un petit peu isolée, et qu'il a été assassiné. Alors on ne sait pas s'il est mort parce que les assaillants ont mis le feu à la maison ou s'ils ont attaqué directement la maison et qu'il est mort lors des combats. Toujours est-il qu'il est mort là-bas en Phrygie et donc il est enterré dans cette région où les funérailles sont organisées sur place. Voilà. Alors on ne sait pas exactement qui aurait commandité l'assassinat. Certains disent que c'est un complot du roi de Perse, d'autres que c'est une revanche de famille, d'autres que ce sont les Spartiates. Jacqueline de Romilly estime que ce serait complot mis en place par le roi Artaxerxès II, qui aurait ainsi planifié la mort d'Alcibiade. Donc on ne sait pas exactement qui a commandité sa mort, en tout cas, c'est la défaite d'Alcibiade, enfin la mort d'Alcibiade, qui ainsi met un terme à cette vie extrêmement mouvementée en 404. Il a traversé toute la guerre du Péloponnèse, il a joué un rôle essentiel durant cette guerre du Péloponnèse auprès de tous les protagonistes, Athènes, Sparte et les Perses. On voit que c'est un stratège de grand génie, et comme pour donner encore plus de drame à sa vie, eh bien il meurt au moment même où la guerre du Péloponnèse s'est terminée. On a ainsi celui qui a raconté la guerre, Thucydide, et celui qui l'a vécu tout au long de celle-ci, Alcibiade.